voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tous les cinémas du monde. Une émission consacrée à Sarah Maldoror, une grande dame du cinéma africain qui nous a quittés le 13 mai dernier. Son ami Alain Resnais aurait pu le dire, sa vie a été un roman au long cours où se croisent les luttes anticolonialistes du continent africain, l'exaltation des indépendances, la promesse des utopies, l'ébullition intellectuelle et artistique des années 60 et 70, militante, combattante, le verbe haut et la pensée bien placée. Sarah Maldoror était aussi une femme irrévérencieuse, pleine d'humour, curieuse de tout, soucieuse des autres et généreuse, elle était surtout une femme libre qui a su s'imposer et se faire respecter dans un monde d'hommes. Elle était née en 1929 d'un père guadeloupéen et d'une mère du Sud-Ouest. Et son premier geste, celui de se trouver un nom d'artiste, elle l'a fait sous les auspices de la poésie la plus insurrectionnelle, la plus subversive qui soit, celle de Lautréamont et de ses chants de Maldoror. En 40 films, elle a marqué de sa présence et de son œuvre, trois décennies de cinéma africain et antillais. Sa colère, sa capacité d'indignation semblaient aussi inépuisables que son sens de l'équité et de la justice. Aimé Césaire, son ami, lui avait dédié cet incroyable poème à Sarah Maldoror qui, caméra au point, combat l'oppression, l'aliénation et défie la connerie humaine. Pour parler de cette pionnière du cinéma africain qui fut la voix des persécutés et des insoumis, nous avons convoqué trois personnalités du cinéma africain. Anouchka Deandrade, vous êtes la fille de Sarah Maldoror, vous êtes aussi connue des cinéphiles, hein, car vous dirigez le Festival d'Amiens au lieu de la cinéphilie tricontinentale. Bonjour.
Bonjour.
Raquel Schaeffer, vous êtes universitaire, vous avez consacré vos recherches au cinéma mozambicain et bien sûr vous avez beaucoup travaillé sur l'œuvre de Sarah Maldoror. Bonjour.
Bonjour.
Et vous, cher Omar Sissoko, vous êtes le grand cinéaste que connaissent les auditeurs de RFI. Vous avez été ministre de la Culture du Mali et vous avez bien connu, vous avez été l'ami de Sarah Maldoror. Bonjour.
Bonjour.
Alors, confinement oblige, hein, vous êtes tous les trois, nous vous avons joints tous les trois au téléphone, Anouchka à Paris, Raquel au Portugal et Cheikh Oumar Sissoko à Bamako, hein, pour faire revivre cette grande figure du cinéma panafricain qu'était Sarah Maldoror.
Le problème n'est pas de savoir qui est bon ou qui est mauvais. L'essentiel en Afrique, c'est qu'il y ait des réalisateurs africains et qu'ils fassent des films. Tout le monde a droit à prendre une caméra, à filmer le sujet qui lui semble bon. Le cinéma africain doit se chercher. Un jour, il se trouvera. Plus on fera de films, mieux ils seront. Nous devons arriver à une certaine technique, à ce que les films soient vus d'abord par les Africains et ailleurs. Mais si nous voulons que nos films soient vus ailleurs, nous devons quand même tenir compte que quand nous avons Apocalypse Now, par exemple, ou que nous avons Le Tambour, nous avons Manhattan, nous avons des morceaux énormes. Alors nous ne pouvons pas arriver avec des flous. Il est tout de même regrettable que les films qui arrivent en Afrique soient quand même des mauvais westerns, des films qu'on ne veut plus, vieux de 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'il est évident que chaque fois qu'on montrera ces mauvais westerns, ces mauvaises dramatiques ou alors ces films policiers complètement absurdes, on n'apprend pas aux gens à penser. On les trompe. On ne va tout de même pas leur dire, bon ben voyez, par exemple, la guerre en Angola, c'était ça, ça s'est passé comme ça. Ah non, mieux vaut sortir un western de Sergio Leone, là, un western minable, et puis c'est tout.
À la fougue, le staccato, hein, irremplaçable de Sarah Maldoror, elle était interrogée en 1980 sur RFI, elle parlait du manque de cinéastes en Afrique. Cher Oumar Sissoko, c'était une conversation avec elle, c'était une conversation que vous meniez ?
Tout le temps, parce que ce qui m'intéresse en elle, vraiment, c'est son combat.
son combat, c'est son militantisme pour l'émancipation des peuples noirs. Et elle était pour moi une figure de proue, quelqu'un avec laquelle, chaque fois en discussion, non seulement elle pouvait me remonter les bretelles, ça, elle n'hésitait pas à le faire si c'était nécessaire, mais en même temps, en tout cas, c'était comme une montre qu'on recharge. Et donc, je repartais ragaillardi.
Est-ce que vous vous souvenez des conditions dans lesquelles vous l'aviez rencontrée, Sarah Maldoror?
Non, c'est quand j'ai vu Sambizanga, parce que moi, je l'ai vu bien tard. Quand j'ai vu Sambizanga, je tenais absolument donc, à la rencontrer. Je ne sais pas où est-ce que ça s'est passé, mais je sais que c'est en 1985. Est-ce que j'ai bien noté cette date-là? C'est l'année où je présentais mon premier film. Donc, c'est pour cela que ça ne m'est pas sorti de la tête. Mais où exactement, je ne pouvais pas le dire. Mais chaque fois que je savais qu'elle était présente quelque part, je cherchais vraiment à la rencontrer parce qu'elle n'avait pas sa langue dans la poche. Et puis, elle disait crûment ce qu'il faut dire pour nous éveiller, pour éveiller nos consciences, pour nous dire voilà ce qu'il faut faire. Et c'est vrai qu'elle a toujours encouragé à faire des films.
Anouchka Dehandrade, Sarah Maldoror, elle avait rencontré l'Afrique, hein, si je puis dire, en URSS au début des années 60. Elle avait rencontré Sam Ben Ousmane alors qu'elle était étudiante au FGIC de Moscou. Est-ce qu'on sait ce qui l'avait conduite à l'époque en Union soviétique? Parce qu'au départ, c'est plutôt, elle a sa troupe de théâtre, c'est plutôt une femme de théâtre.
Oui, oui, tout à fait. Donc, quand elle est arrivée à Paris, elle s'est plongée dans la culture et grâce à Présence africaine, qui était donc la maison d'édition et la librairie où elle a découvert les auteurs noirs. Donc, elle a d'abord créé les griots et ensuite, d'une part, pour des raisons économiques, ils n'avaient plus les moyens de continuer à monter des pièces. Elle a voulu continuer à faire connaître la culture noire et elle s'est dit le cinéma, c'est le meilleur moyen pour atteindre le maximum de personnes et donc diffuser cette culture. Et elle a donc décidé de faire du cinéma et pour elle, l'Union soviétique lui paraissait exotique, lointaine. Et elle est partie avec une admiration, une envie incroyable parce qu'elle admirait et elle aimait beaucoup le cinéma soviétique et donc elle a pu obtenir une bourse et aller à Moscou.
Et c'est au FGIC, donc à la célèbre école de cinéma de Moscou, qu'elle a rencontré Sam Ben Ousmane, grand cinéaste sénégalais. Est-ce que, pionnier hein, du cinéma sénégalais, est-ce qu'elle vous en parlait de cette rencontre?
Pas du tout. Très peu. Pour elle, c'était normal. Sam Ben était là. Après, ils se sont côtoyés plusieurs fois. Mais d'ailleurs, tout au long de leur carrière respective, ce qu'elle aura retenu de Moscou, c'est cette confrontation au racisme. C'est finalement l'école et tout ce qu'elle elle y aura découvert. Mais pour elle, qu'il y ait eu Sam Ben, c'était normal. Elle aurait aimé qu'il y ait beaucoup plus de cinéastes africains. Il y en aura d'autres qui seront allés comme eux étudier le cinéma à Moscou. Mais elle ne disait pas, tu te rends compte, j'ai rencontré Sam Ben. Bon, ce n'était pas ça qu'elle aura retenu de ses années soviétiques.
Et donc, après ces années soviétiques, hein, où elle apprend le cinéma, elle se forge des amitiés, peut-être que sa conscience politique s'infléchit aussi, puisqu'elle va rencontrer les pionniers de la lutte anticolonialiste en Guinée, en Algérie. Elle va passer un certain temps en Algérie, elle va travailler entre autres sur la bataille d'Alger, et puis surtout en Angola, aux côtés de son compagnon Mario Dehandrade, donc le fondateur du MPLA, hein, Mouvement pour la Libération de l'Angola. Donc à cette époque de sa vie, on est au début des années 60, elle vit, elle pense, elle respire politique. Même vous, Anouchka Dehandrade, vous êtes née à Moscou et votre sœur est née à Rabat. Ça esquisse déjà en soi un tableau de la guerre froide.
Oui, oui, oui. Oui, puis nous, elle nous trimballait partout. Donc on a suivi, on a voyagé, elle a partagé ça. Mais la politique est un de ses piliers. Tout est politique, la poésie aussi. Et ça, c'était une caractéristique vraiment importante de Sarah.
Je préfère rester dans le mystère. Il n'y a rien de plus beau que le mystère. Le noir. Être enveloppé de noir, c'est tellement plus beau. Je suis guadeloupéenne, ça suffit. Et j'adore le cinéma.
Arthur, et ce complet, c'est pour quand? Allez me chercher Mathéus. Allez me chercher Mathéus. Allez me chercher Mathéus. Le complet. Le complet. Le complet.
Scène de torture d'un prisonnier politique par la faim. On est en Angola, hein, au cœur du film. Donc ce fameux complet poisson, hein, qui lui donne son titre, Mona Gambé. Donc un film qui a été magnifiquement, il faut le dire, hein, restauré par la cinémathèque de l'Arsenal à Berlin. Raquel Schaeffer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un complet ?
Bon, un complet, il y a un jeu linguistique derrière le complet. Le film est basé sur la nouvelle de l'écrivain angolais, du grand écrivain angolais, Wendy Nouvière, ou Fat Complet Lucas Mateus, dont la traduction française c'est le complet de Mateus, publié en 1962. Le scénario de ce film est signé par Mario Pinto d'Andrade et Serge Michel. Et il faut dire que le terme de Munangambe signifie aussi embauché, c'est-à-dire il désigne le travailleur noir obligé de travailler dans les plantations coloniales. Après, on peut retracer cette expression Munangambe tout au long d'une cartographie littéraire et musicale. C'est le titre notamment d'une chanson anticoloniale de Rui Mingas, du chanteur angolais Rui Mingas, écrite en 1960. Cette chanson réapparaît dans le film 25, le premier film réalisé au Mozambique par les hommes de théâtre brésilien José Celso Martínez Correa et Celso Lucas. Donc il y a toute une cartographie historique des luttes de libération qui s'ouvre à travers cette expression. Et donc par rapport à ce film, j'aimerais dire que c'est un film où il s'articule une poétique et une politique de libération. Donc je pense que le mot poétique et l'expression politique de libération sont assez expressifs de l'œuvre de Sarah. Et c'est un film aussi où il se met en place un regard intersectionnel, c'est-à-dire un regard à la fois africain, noir, féminin et féministe que se pose sur le monde en mutation des années 60 et tout particulièrement sur les luttes de libération des pays africains de langue portugaise, dans ce cas l'Angola.
On peut dire de Sarah Maldoror, justement pour rebondir sur ce que vous disiez Raquel, qu'elle est la première femme à faire du cinéma en Afrique noire. Alors ce film Mona Gambé, ce court-métrage va avoir le prix de la meilleure réalisation. C'est son premier film, elle a le plus grand prix des journées cinématographiques de Carthage. On est en 69, c'est un film qu'elle tourne à Alger et c'est un film qui parle bien sûr de la torture, mais puisqu'on est en train de faire mourir ce prisonnier politique, on le fait mourir de faim. Mais il est aussi, Anouchka Deandrade, sur l'incompréhension entre le colonisé et le colonisateur, avec la figure de cet homme intermédiaire, Arthur, hein, on l'entendait dans l'extrait.
Oui, tout à fait, et ça, la notion d'enfermement et de torture, c'est quelque chose qui est très très important et qu'elle va garder tout au long de sa vie. Elle s'est beaucoup interrogée sur l'enfermement, sur la prison, et elle aura même eu envie, elle a écrit un projet, elle voulait faire un film dans les couloirs de la mort sur Abu Jamal avec Angela Davis. Évidemment, elle n'a pas eu l'autorisation d'aller jusque-là. Mais la notion de la torture, c'était quelque chose qu'elle comprenait pas, qu'elle ne concevait pas qu'on puisse encore torturer un prisonnier pour quelque raison que ce soit.
Cheikh Oumar Sissoko, au cœur du film, il y a quand même quelque chose, enfin, on parle de torture, on parle de lutte anticoloniale, et il y a quelque chose, et je parle au grand cinéaste politique que vous êtes, hein, il y a quelque chose de très trivial, hein, c'est l'histoire de ce complet poisson, donc qui est en fait une sorte de plat dont rêve, que fantasme le prisonnier qui est en train de mourir de faim. Hein, Sarah Maldoror, elle ne nous épargne pas dans le film la dureté de ce que c'est de mourir de faim, ce que ça produit sur un corps. Et moi, il me semble que ce côté à la fois très dur sur la torture a quelque chose de très trivial en même temps. C'est quelque chose qu'on ne voit jamais dans les films militants de l'époque.
Et oui, nous sommes en pleine guerre d'Algérie, vous savez, et il y avait beaucoup de torture. Et on essaie de cacher pour que l'opinion publique française et internationale n'apprenne pas ce qu'il y avait d'horreur. Et ça, vous voyez là l'engagement de Sarah Maldoror. Il faut montrer cela. Il faut montrer cela. À côté du film de Sarah Maldoror, on peut citer aussi un livre qui a permis donc de comprendre ce qui se passait, La Gangrène. Donc Sarah tenait à le faire. Et Sarah est l'une des rares personnes, avec Simbel Ousmane d'ailleurs, c'est ça où il y a la similitude entre les deux, pour parler donc du colonialisme. Et les autres cinéastes ont été très timorés pour en parler, et Monegambe et Sambizanga, tout comme Emitai et le camp de Tcharoï, montrent la similitude entre les deux, beaucoup plus de similitudes d'ailleurs. J'espère qu'on aura le temps donc d'en parler, parce que c'est ça qui m'intéresse, l'engagement donc de la personne. Il fallait que les gens se rendent compte que la torture était une arme utilisée pour faire plier les Algériens, ou dans une guerre pour faire plier le colonisé. Et ça, oui, il y est arrivé, et aussi dans Sambizanga.
Hein? C'est bon? Hein?
Une scène d'intimité entre Maria, son mari, Domingos, et leur bébé. Une scène d'intimité avant le drame, hein, puisque Domingos, qui est un militant indépendantiste angolais, va être enlevé par la police coloniale. Et donc Maria va partir à sa recherche. C'est un magnifique portrait de femme, entre autres. Hein, Sambizanga, 72, Tanit d'or au JCC. Anouchka Deandrade, c'est un film qui aura un grand retentissement.
Ah oui, c'était un très très important dans sa vie, puisque c'était son premier long métrage, et elle a réussi à faire assez facilement. Finalement, elle a trouvé un producteur, Jacques Poitrenaud, et elle a eu l'avance sur recette du CNC, ce qui lui a permis de faire le film dans de bonnes conditions. Et ensuite, il y a eu une carrière internationale très très importante, et là, nous faisons tout pour essayer de restaurer la copie, on espère y arriver. Mais c'est vrai qu'elle disait aussi qu'elle avait réussi à faire ce film avec l'aide du gouvernement français, parce qu'il ne s'agissait pas d'une guerre d'une des colonies françaises. Parce que quand plus tard elle a voulu faire un film sur Louis Delgrès, un héros guadeloupéen, elle a eu toutes les peines du monde et elle n'a jamais réussi à faire ce film. Elle faisait le parallèle avec Sambizanga, où là il s'agissait d'une ex-colonie portugaise. Enfin, à ce moment-là, c'était encore une colonie portugaise en 72.
Elle disait « J'ai voulu représenter la solitude d'une femme et le temps que l'on met à marcher hein. ». C'est magnifique, Anouchka Deandrade. Il y a aussi peut-être, enfin, j'imagine que vous le percevez mieux que personne, un effet miroir avec sa grande histoire d'amour avec le poète angolais Mario Deandrade, qui a été aussi un homme politique et le fondateur du MPLA, une grande figure de la résistance aux colonisateurs en Angola.
Oui, effectivement, c'était une grande histoire d'amour et Sarah a toujours été à ses côtés. Elle l'a accompagné toujours soutenu, puisque sa vie politique a été très dense et également très compliquée avec ses relations ensuite avec le MPLA, puisqu'il n'est jamais retourné en Angola. C'est lui qui s'est battu pour l'indépendance de son pays et il n'a jamais pu y retourner. Je pense que c'était quelqu'un de meurtri, profondément meurtri et déçu de la politique. Et Sarah a toujours été là, l'a toujours soutenue. Et ensemble, ils ont travaillé. Il a aidé sur le scénario de Monagambé, l'adaptation, sur celle de Sambizanga également. Et puis, elle aimait lui montrer les films qu'elle faisait. Il était ils avaient une grande admiration mutuelle et ça qui ne les a jamais quittés.
Et le film a été entièrement tourné au Congo, je crois, avec des acteurs, oui. des militants, hein, je devrais dire, congolais. C'était pas possible en Angola ?
Ah non, c'était pas possible en Angola puisque c'était encore la guerre. Et ça a été tourné avec les militants du MPLA qui étaient là, mais aussi avec des figurants congolais, ce qui explique que le film est parlé en plusieurs langues, donc en Lingala, en Kimbundu et également en portugais.
Raquel Schaeffer, il y a une scène extraordinaire dans Sabizanga. C'est la scène, ça se passe à la toute fin du film. Donc cette femme a cherché, elle a cherché son mari partout. Elle ne l'a pas trouvé et on est bien obligé de, les militants sont bien obligés de se rendre compte de la réalité. La Domingos, en fait, est mort sous la torture. Il y a une scène incroyable. Donc à la fin du film, c'est une sorte de bal et les militants, en fait, sont réunis pour annoncer la mort de Domingos, qui était leur militant, qui était un militant important. Et tout à coup, il y a ce moment de tristesse qui tombe et de silence qui tombe sur le bal. Et puis tout à coup, ça reprend. Alors, on ne peut pas vous le faire entendre parce que malheureusement, vous le disiez, Anouchka, Sambizanga n'existe pas dans une bonne version. Donc, on vous a épargné la mauvaise copie qu'on peut trouver sur Internet. Mais je trouve que ce moment, c'est-à-dire de suspension et puis tout à coup de reprise de la musique, qui est une magnifique rumba congolaise, est extraordinaire.
Oui, tout à fait. Il faut dire que le film se base sur le récit de Luandino Vieira, un autre récit de Luandino Vieira, La vraie vie de Domingo Xavier, publié en 1961, qui porte précisément sur la fondation du MPLA, du Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola, en 1956. Et donc, j'aimerais tout d'abord remarquer la manière dont Sara Marudoror centre le récit sur le personnage de Maria, la femme de Domingos, et donc il y a tout un regard féminin et féministe qui oriente l'adaptation cinématographique de Sara. Et par rapport à cette scène que vous mentionnez précisément, je pense que c'est une scène très belle parce qu'il y a cette annonce de la mort de Domingos, mais c'est aussi une scène de jouissance. Ça donne une dimension de jouissance à la révolution, ça donne aussi une dimension préfigurative qui annonce le pays à venir, la construction de la future société angolaise. J'aimerais aussi remarquer la dimension hyper sensorielle du film. Par exemple, dans la scène où nous avons écouté il y a quelques moments, c'est une scène où le corps de Domingos, de Maria et de son bébé sont très proches. Il y a une très grande étroitesse du cadre. On peut dire qu'on est dans un système de reconstitution sensible plutôt que de reconstitution historique. Il s'agit de reconstituer les conditions sensibles de corps colonisés. De corps colonisés, opprimés, mais aussi de corps résistants, de corps jouissants. Et donc, je pense que c'est cette dimension de résistance et de jouissance qui traverse tout le film, notamment cette dernière scène à laquelle vous avez fait référence.
Cher Omar Sissoko, ce qui frappe quand on revoit Sambizanga, je ne sais pas si vous l'avez revu il y a peu de temps, l'attention qu'elle porte au visage, la beauté de la mise en scène, enfin on sent presque l'influence du néo-réalisme. Cette femme, Maria, qui court dans Luanda, elle a presque un côté Anna Magnani dans Rome, ville ouverte. Et cette dimension documentaire, elle est à chaque instant du film, c'est-à-dire que ce soit dans le trivial, un grand-père qui explique par exemple les techniques de pêche à son petit-fils, ou au moment de l'interrogatoire de Domingos, où on voit effectivement comment les deux policiers se répartissent le travail. Voilà, good cop, bad cop, celui qui est gentil et puis celui qui fait le méchant. Et on se dit, ça c'est de la fiction, mais qui est vraiment nourri de documentaires.
Oui, Sara a tenu absolument dans son combat militant à amener les gens à rentrer dans son film, développer un réalisme cinématographique qui puisse amener les gens à sentir la tension qu'elle a faite avec cette musique-là qui s'arrête et puis qui démarre. Mais surtout, je note avec intérêt, et ça, je l'ai beaucoup utilisé dans mes films, comment faire ressortir le rôle et la place de la femme. Parce que dans sa tête à elle, c'est la question de l'émancipation, l'émancipation des peuples noirs. Et dans cette émancipation des peuples noirs, donc, il y a installé la femme. Je ne parle pas beaucoup de ces films parce que il y a longtemps que je n'ai pas vu ces films-là. Et nous sommes avec Anouchka en train d'essayer justement de restaurer. Quand je dis nous, c'est la Fédération panafricaine des cinéastes. Je voudrais simplement surtout insister, je ne sais pas si on aura le temps, donc, la génération consciente des Africains dans les années 50. Et je veux citer la création de Guillot, Les Guyots, c'était la même année où les artistes, les intellectuels et les écrivains ont eu à se réunir à la Sorbonne pour parler de l'émancipation des Noirs.
Les Griots, c'est la troupe de théâtre de Sarah Maldoror.
Ah oui. Oui, Sarah s'est basée sur... les Griots ont été créés en 1956. C'est la même année de la grande réunion des Aimé Césaire, Senghor et autres, les artistes intellectuels et écrivains. La deuxième réunion a eu lieu à Rome. Et c'est la même année que Sarah crée cela. C'est pour cela que Sarah s'est battue pour faire du théâtre et faire connaître les artistes, les écrivains, les poètes par leurs œuvres. Théâtre, théâtre, théâtre. Et ensuite, elle a accompli comme Saint-Ben, quand Saint-Ben a écrit des livres et a vu que c'était pas du tout à la portée des citoyens qu'il attend, a choisi d'aller faire du cinéma. Sarah aussi choisit d'aller faire du cinéma, donc après le théâtre, parce qu'elle dit, j'ai besoin donc de m'ouvrir donc à l'Afrique, aux Antilles, pour qu'ils comprennent donc leurs droits et leurs devoirs, qu'ils comprennent le besoin donc de se battre. Et c'est cela, donc la génération consciente dans laquelle Sarah s'est trouvée et qu'elle a fait, dont elle a fait un prolongement en se mariant avec un grand militant, Mario de Andrade, en allant sur le terrain. La différence avec Saint-Ben, c'est que Saint-Ben n'a pas été sur les théâtres d'opération, mais elle a été sur le théâtre d'opération. Saint-Ben a rencontré les présidents. Mais Sarah, oui, elle a été sur le théâtre en Algérie, en Guinée, hein, n'est-ce pas, et au Congo. Quand on est au Congo, on est comme en Angola, c'est vrai, c'est à côté, mais c'est ça son travail qu'elle a eu à faire. Et cette similitude, donc, on la sent. Je le disais au début, qu'elle a été la seule avec Saint-Ben dans le cinéma, à faire des films sur la colonisation. Et Med Hondo est venue très tard, en 1987, pour faire Sarah Wignan. Mais elle s'y est impliquée parce qu'elle pensait que c'était le nœud de la question qu'il fallait trouver. Une battante, une militante. Et elle a montré dans les films. C'est pour cela qu'elle détestait la médiocrité et elle voulait justement qu'on puisse faire de grands films. Et quand on voit Sambizanga et Monegambe, donc on voit vraiment donc ça touche pour que le film puisse être vraiment cette arme dont elle veut pour conscientiser les gens, sensibiliser les gens et toucher le cœur des gens pour comprendre les problèmes qui se posent à l'Afrique et aux Antilles.
Et ce qui frappe aussi, effectivement, cher Oumar Sissoko, elle disait le cinéma est une prise de position et quand je prends position, j'informe. Mais il me semble que ce qu'on a beaucoup dit, c'est qu'effectivement, elle était militante, c'était une femme pour qui le cinéma était indissociable de la politique. Mais dans le même temps, ce qui frappe quand on voit ses films, c'est que c'est une immense cinéaste. C'est-à-dire que, par exemple, on parle de Sambizanga, hein, il y a cette scène incroyable où il y a un gamin qui va voir son grand-père, hein, pour l'informer que le militant anticolonialiste Domingos a été arrêté. Et j'adore ces moments où finalement les générations se croisent et se mêlent. On a l'impression que les braises de la révolution sont en train de s'étendre dans la ville. Anouchka de Andrade, c'est vraiment frappant, hein, dans Sambizanga. Par exemple, la façon aussi dont elle impose son rythme et dont, au-delà de l'histoire, hein, de Domingos et de Maria, elle est sensible, elle est attentive au monde qui entoure les deux personnages. Hein. Par exemple, Domingos est tabassé et il y a ce plan, un plan qui est très long, sur une femme derrière un mur qui regarde.
Oui, Sarah, je pense que ce qui la définit le mieux que la militante ou la combative, c'était quelqu'un d'extrêmement bienveillant et de très généreux. Et cette douceur et cette intimité qu'elle a voulu transmettre à l'écran, il y a des scènes d'une grande sensualité dans son Sambizanga. On n'a pas besoin de voir des corps nus. Et ça, c'était très très important pour elle. Et aussi, elle a beaucoup insisté sur la beauté d'Elisa Andrade, qui interprète le rôle de Maria. Et pour elle, c'était très très important de choisir une belle femme. Elle raconte souvent quand elle a croisé Bergman, qui lui disait « Oui, mais on n'y croit pas, pourquoi ce personnage est aussi beau ?» Et elle répond « Mais parce que la beauté existe aussi en Afrique et qu'il n'y a aucune raison que de montrer une femme en guenille. » Et donc, elle faisait très très attention aux couleurs, au cadre, à la lumière et à transmettre cette sensualité là aussi et la féminité de cette femme.
Vous êtes sur RFI Tous les cinémas du monde avec Anouchka de Andrade, Raquel Schaeffer et cher Oumar Sissoko pour évoquer la vie et l'œuvre de Sarah Maldoror, cette grande figure du cinéma panafricain disparue en avril dernier.
C'était un soir de novembre. Nous avions bon vie, nous les esclaves, nous le fumier, nous les bêtes aux sabots de patience. Nous courions comme des forcenés. Des coups de feu éclatèrent, nous frappions. La sueur et le sang faisaient une fraîcheur. Nous frappions parmi les cris, et les cris devinrent plus stridents. Et une grande clameur s'éleva vers l'est. C'étaient les communs qui brûlaient. Et la flamme flatta tous sur nos joues. Alors, ce fut l'assaut donné à la maison du maître. On tirait les fenêtres, on forçâmes les portes. La chambre du maître était grande ouverte. La chambre du maître était brillamment éclairée et le maître était là, très calme. Et les nôtres s'arrêtaient. C'était le maître. J'entrai. C'est toi, me dit-il, très calme. C'était moi. C'était bien moi, lui disais-je. Le bon esclave, le fidèle esclave, l'esclave esclave. Et soudain, ses yeux furent comme deux ravets apeurés les jours de pluie.
Le face à face dans les entrailles du musée de l'homme entre Sarah Maldoror, vêtue ironiquement d'une blouse blanche, et le comédien Gabriel Glissant. Et les mots, bien sûr, Anouchka Déandrade, ce sont ceux d'Aimé Césaire. Et les chiens se taisaient. Hein. C'est un film qu'elle a fait en 1974.
Oui, tout à fait. C'est elle qui interprète. C'est donc le seul film où on la voit jouer. Et c'est tourné dans les réserves du Musée de l'Homme grâce à Michel Léris qui lui a permis de faire ce film-là au milieu de tous ces masques entassés. Et ce qu'on remarque aussi dans ce film, c'est encore l'importance de la musique. L'importance du jazz, qui est aussi une manière d'exprimer la liberté, qui est présente dans beaucoup, beaucoup de ses films.
Elle aimait beaucoup le jazz. Elle avait une longue amitié avec Archie Shepp, par exemple. Elle a beaucoup fait jouer le Chicago Art Ensemble.
Exactement, oui. Et c'est une formation qu'elle a rencontrée à Paris au moment où elle faisait le montage de Monningambé. Et c'était leur première collaboration au cinéma. Donc ensuite, elle a travaillé avec Archie Shepp et même dans son film « L'hôpital de Leningrad », qui est une adaptation d'une nouvelle de Victor Serge, elle a aussi utilisé du jazz de Jean-Yves Bosseur et Jean-Louis Chotan pour ce film. Et ça pourrait paraître anachronique, mais le jazz était très très important dans sa vie. Elle en écoutait beaucoup et je pense notamment au musicien Youssef Latif. Et je crois que le jazz était la transposition de ce qu'elle pensait de cette émancipation et de cet appel à la liberté. Et elle l'a beaucoup utilisé dans ses films parce qu'il faisait aussi partie de sa vie. Et peu importait si elle avait décidé de mettre du jazz sur ce film, qui est donc une nouvelle russe, ça ne lui posait pas de problème parce qu'elle trouvait que ça alimentait bien son film, les images et aussi la poésie d'Amas, le poète guyanais aussi, une poésie qui est très très rythmée. Et Senghor en parle justement comme d'un poète qui alliait la musique au rythme de sa poésie.
Anouchka Déandrade, quelle est sa vie dans les années 70? Parce qu'au début, elle tourne et les chiens se taisaient à Paris. Et puis, elle va partir au Cap-Vert pour tourner Fogo, Île de Feu en 79. Enfin, on a l'impression, elle se partage aussi, elle se partage entre la France, l'Afrique, les Antilles. On a l'impression que c'est une vie très, très itinérante. Est-ce que je me trompe?
Ah non, pas du tout. Elle voyageait énormément. Alors, elle voyageait pour présenter Sambizanga, beaucoup. Hein, le film a été sélectionné dans beaucoup de festivals. Donc, elle y allait, mais ce qui l'importait, donc elle aimait le faire. À chaque fois qu'elle pouvait, elle nous emmenait, ma sœur et moi, dans les festivals. Mais ce qu'elle aimait aussi, c'était, elle avait une curiosité insatiable. Et dès qu'elle pouvait aller dans un pays qu'elle ne connaissait pas, hop, elle fonçait. Mais elle allait aussi au devant des cultures et elle avait une soif insatiable. Elle a écrit aussi énormément de projets qu'elle aurait voulu faire et qu'elle n'a pas pu réaliser, et où elle partait parce qu'il y avait des événements quelque part dans le monde et elle voulait aller voir elle-même ce qu'il se passait et peut-être en tirer un film ou pas. Donc elle était toujours, toujours en mouvement et nous avec. Et donc on a comme
vous
ça,
les filles, vous ces filles.
Nous les filles. Voilà, continuer dans son énergie communicative.
Et comment ça se passe? Parce qu'elle, elle a un peu une double vie, c'est-à-dire elle a à la fois sa vie de militante, et puis dans le même temps, elle est cinéaste, elle fréquente beaucoup de cinéastes à un moment où, par exemple, Godard part au Mozambique, où Chris Marker voyage beaucoup en Afrique, et ces gens-là, c'était ses amis. Enfin, on l'a bien vu l'an dernier à l'exposition Chris Marker à la Cinémathèque française, il y avait beaucoup d'images dans les films de Chris Marker qui avaient été tournées par Sarah Maldoror. Je crois que vous vouliez en parler, Raquel Schaeffer. Par exemple, dans Fogo, Île de Feu, il y a des images hein, de femmes sur la plage au Cap-Vert que Chris Marker va réutiliser, sans les créditer d'ailleurs, il faut le dire, sans les créditer Sarah Maldoror, il va les réutiliser dans son film Sans Soleil.
Oui, tout à fait. En effet, ces images font partie du film de Sarah et ont été tournées par le cinéaste guinéen Sananada. Et je trouve que c'est très intéressant cette circulation d'images. Tout d'abord, cette circulation d'images signale déjà une caractéristique constitutive de l'archive anticoloniale. C'est précisément la manière dont les images circulent de film à film, contrairement à la domiciliation en tant que caractéristique générale de l'archive et de l'archive coloniale en particulier. Et d'autre part, cette circulation d'images pointe aussi également vers les connexions internationalistes, affectives, d'amitié, etc., qui nourrissent le mouvement de libération. Dans ce film en particulier, Fogo, Île de Feu, je trouve très intéressant la manière dont c'est un film qui s'organise autour des processus de construction du regard. Il y a ces visages féminins qui nous regardent, que regarde la caméra, qui rendent visible tout un processus de retournement du regard, le regard de l'ancien colonisé, qui regarde le monde en transformation de cette période. Et ensuite, c'est intéressant de voir aussi la manière dont Sarah inscrit le corps et ses regards dans le paysage volcanique de l'île de Feu. Du point de vue formel, c'est très proche de ce que Pedro Costa fera quelques années après dans son film Maison de Lava, tourné également au Cap-Vert. Donc je pense qu'il y a certaines filiations et certaines connexions qui se dégagent de ces relations.
Anouchka Deandrade, Raquel Schaeffer parlait d'international. Est-ce qu'il y avait une internationale aussi des cinéastes à l'époque, c'est-à-dire dans votre enfance, comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait, je ne sais pas, Chris Marker dans la cuisine et Jean-Luc Godard dans la salle de bain? Est-ce qu'il y avait beaucoup de cinéastes autour d'elle?
Oui, oui. Godard, moi, je ne l'ai pas côtoyé, mais Chris Marker, beaucoup. Il venait à la maison, elle y allait, elle lui montrait tous ses films. Et lui aussi, ils aimaient bien échanger. Et elle lui montrait ses films en prémontage. Elle aimait beaucoup avoir la vie de Chris. Et puis donc, quand la Guinée-Bissau a été indépendante, mon père était ministre de la Culture. Et Sarah lui a dit, il faut absolument que tu appelles Chris. Et c'est comme ça que Chris est allé former les cinéastes en Guinée-Bissau. Et donc, voilà, elle a côtoyé, je sais pas la peine que je cite des noms, mais on a vécu dans le cinéma toute petite, et effectivement, on a croisé beaucoup d'artistes à la maison ou dans les salles de cinéma, parce qu'elle nous emmenait dans les festivals, comme je le disais tout à l'heure.
Et en parlant d'artistes, justement, en voici un.
Si je voulais me définir, je crois que je suis fondamentalement un poète, c'est tout. Ouais. Et vous savez bien que c'est vrai que je suis devenu un homme politique, et je suis devenu un petit peu par suite d'un accident historique. Vous me direz que c'est un accident qui a duré bien longtemps. quand on a commencé, il est difficile de s'en sortir. Je ne sais même pas si j'aspire d'ailleurs à en sortir, mais c'est comme ça. Hein. Mais enfin, je dois dire que jusqu'à l'âge de 30 ans, 35 ans même peut-être, 33 ans, je n'avais jamais songé à devenir, à faire une carrière pour, politique. Mais de tout temps, je me suis connu écrivant, ou tâchant d'écrire.
Cette voix, bien sûr, hein, c'est celle d'Aimé Césaire en 86. Donc, dans Aimé Césaire, le masque des mots, hein, c'est ni le premier ni le dernier que Sarah Maldoror, le dernier film que Sarah Maldoror va tourner avec et sur Aimé Césaire. Anouchka Desandrades, quand Senghor dit « je suis un artisan », est-ce que c'est une parole avec laquelle Sarah Maldoror pouvait se sentir en affinité dans sa pratique à elle du cinéma? Je vous pose la question à vous et puis peut-être aussi à Cher ou Marcy Soko.
Artisan, je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit un mot qui lui convienne bien, mais elle travaillait énormément. Elle travaillait énormément ses films et je crois que tout ce temps de préparation qui faisait la différence, mais elle se nourrissait de tout. Je crois que c'est quelqu'un qui essayait de réunir tous les arts, toutes les formes autour d'elle pour servir le propos qu'elle voulait faire. Et c'était quelqu'un d'extrêmement ouvert et elle ne mettait pas de frontières. C'est pas parce que on décide de faire un film sur tel sujet qu'on doit se fermer et ne pas aller voir autre chose. Et par exemple, quand elle commençait un film, elle essayait de trouver une couleur ou un tableau. Elle essayait de s'inspirer aussi de toutes ces formes artistiques et encore une fois, les artistes plastiques étaient très importants, ou les sculptures. Nous, dans notre enfance, quand on est arrivé à Paris donc dans les années 70, tous les dimanches, on allait au musée avec Sarah. Alors, on y allait pour voir ou une œuvre ou un artiste. Évidemment, on ne voyait pas tout le musée, mais tous les dimanches, il fallait y aller parce que c'était important. Et après, on allait manger des gâteaux ou on allait au cinéma, mais la visite du musée était importante. Et après, elle a toujours continué. Pour chaque film, elle essayait de voir quel tableau, quel artiste, quel peintre pouvait correspondre à l'univers qu'elle voulait transcrire dans ce film.
Anouchka, Sarah Maldoror, elle était très, on l'a dit, hein, elle était très sensible, elle aimait beaucoup la poésie. Mais celle d'Aimé Césaire, il me semble qu'elle occupe une place très particulière, autant dans sa vie d'ailleurs que dans son œuvre.
Ah oui, exactement. Césaire, c'était, elle l'admirait, une très très grande amitié qui s'est nouée avec eux, et également avec mon père, puisque mon père était le secrétaire d'Alioune Diop à Présence Africaine, et c'est donc lui qui a organisé le premier congrès des écrivains et artistes noirs dont parlait Cheikh Oumar tout à l'heure. Et donc là, Sarah connaissait la poésie de Césaire, Mario côtoyait Césaire, et quand ils ont vécu ensemble, évidemment, Césaire était le cœur de leur vie poétique. Ensuite, cette amitié est restée très, très ancrée. Puis il y a aussi le parallèle entre Mario, qui était également poète et homme politique, qu'on voit aussi chez Césaire. Donc il y avait un très, très grand, très, très grand respect mutuel entre Césaire et Sarah. Ça,
oui,
c'est clair.
Oui, Césaire qui a été le maire de Fort-de-France. Mais Césaire qui disait des mots très beaux, hein, je trouve, pour se définir, définir son tempérament par opposition au calme du Sénégalais Léopold Sédar Senghor. Il disait « il y a un stress, une angoisse, une mélancolie martiniquaise qui relève de la psychanalyse. L'idée d'avoir été arrachée, enlevée, nous sommes des déracinés. » Et est-ce que elle, guadeloupéenne, pouvait se retrouver dans ces mots du Martiniquais Césaire?
Ah, je ne crois pas. Sarah n'a très peu connu son père. Il est mort, elle était très très jeune. Et donc, elle n'a pas pu nouer de relation avec les Antilles. Et quand elle est arrivée à Paris, elle disait « Bon, d'accord, je suis noire, mais on vient d'Afrique. » Et la relation avec les Antilles ne s'est pas faite comme elle a pu se faire avec l'Afrique. Bon, parce que d'abord, elle a vécu en Afrique et elle avait mon père qui en parlait tout le temps, qui le vivait. Et donc, elle ne s'est pas sentie déracinée. Mais ce qui est important aussi à savoir dans la maturité de Sarah, c'est que c'est une femme qui est orpheline. Elle a perdu son père, puis sa mère très très jeune, et elle s'est faite toute seule. Et la seule chose qui l'a sauvée, c'est la culture. Elle s'est plongée éperdument dans la culture et c'est ça qui lui a permis de vivre et c'était sa colonne vertébrale. Et elle disait, moi, d'accord, je suis normée, mais peu importe, je suis bien là où je travaille, là où je vis. Et elle s'en foutait d'avoir une nationalité ou qu'on lui dise, parfois on lui reprochait de ne pas être assez antillaise, après on lui reprochait de ne pas être africaine. Tout ça, c'était des querelles qui ne l'intéressaient mais pas du tout.
Cher Omar Sissoko, vous le disiez tout à l'heure, et ce sera ma dernière question, hein, parce que l'heure tourne, elle aimait beaucoup le format du portrait Sarah Maldoror. Elle a fait des portraits, alors beaucoup d'Aimé Césaire, son ami, mais aussi de l'écrivain Léon Gontran Damas, de Toto Bissinthe. Est-ce qu'il y avait chez elle cette envie d'écrire presque une contre-histoire dans laquelle les grandes figures noires seraient réhabilitées et remises à leur place ?
Oui, Sarah a été très attentive à tout ce qui pouvait permettre de faire avancer son combat, le combat de ses amis, le combat de ses artistes intellectuels écrivains, le combat du continent et des Antilles pour leur émancipation, pour la libération de l'Afrique. Elle s'attachait par conséquent à trouver, à chercher, à comprendre ce qui se faisait dans ce domaine-là. C'est pour cela que déjà dans les années 50, elle était assise sur un travail, elle a développé un travail qui pouvait permettre donc de faire connaître les travaux de tous ces artistes qui participaient de cette émancipation-là. La tragédie du roi Christophe, etc., etc. Et elle comprenait parfaitement, plutôt elle mesurait la force des mots de Césaire. Et tous ceux qui pouvaient rentrer dans cette voie qui lui permettait vraiment de contribuer pour elle, elle cherchait absolument à faire connaître. Et quand elle a eu le background donc, du cinéma, elle voulait faire connaître aussi donc, les artistes et les portraits l'intéressaient dans le dessein de développer ses activités de militante, de combattante.
Et de cinéaste, car c'était, hein, je le répète, une immense cinéaste. Oui. Merci, cher Omar Sissoko. Merci.
Une grande cinéaste.
Merci, Raquel Schaeffer. Et merci, Anouchka Deandrade.
Merci. C'est important que l'œuvre de Sarah puisse vivre et continuer. Je voulais aussi remercier Cheikh Omar pour tout ce qu'il fait, pour justement ce travail de restauration de son film, Sans Bizanga.
Voilà, et on se quitte sur une chanson hein, dont elle avait écrit les paroles et qu'elle avait enregistrée avec son ami Archie Shepp. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Fanny Renard, au micro, Elisabeth Le Quéré. Un grand merci à Fabien Mugneret hein, qui a assuré la technique valeureusement aux côtés de Fanny Renard. Un grand merci aussi à toute la documentation de RFI qui nous a beaucoup aidé pour monter cette émission. Merci à Catherine Ruel. Merci à Véronique Jo Eisenberg de la Cinémathèque Afrique de l'Institut français. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même cinéma.
Mao c'est ma vie, y'a du beau, y'a du cool, y'a des gens de toutes les couleurs, y'a des blancs, des noirs, des verts, y'a des chèvres qui.
La marche du monde.